L'EM. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'EM, l'émission, le magazine de Radio Évasion, en partenariat mensuel avec l'USPG, Université des sciences et pratiques gastronomiques, basée à Quimper. Une association qui veut faire entrer l'alimentation en transition, qui nous propose une réflexion approfondie sur ce que nous mangeons, en passant cette année par les métiers, de la production à la vente des aliments, en passant aussi par la transformation. Alors on a reçu par exemple une productrice de semences, un meunier, un boulanger, une pâtissière, une éleveuse, transformatrice de fromagère donc. Aujourd'hui on explore davantage la salle de restaurant. En tout cas ce qui entoure la table. Après le métier de cuisinier, on passe au service, incarné par le maître d'hôtel que nous recommande Xavier Hamon, qui est fondateur de l'USPG. Il n'est pas là mais on le salue bien sûr. Et nous recevons donc Samuel Ramos-Jiquel. Bonjour.
Bonjour.
Alors, maître d'hôtel, déjà depuis combien de temps êtes-vous vous-même maître d'hôtel ?
Alors, depuis combien de temps ? J'ai été maître d'hôtel il y a très longtemps. J'ai été ensuite adjoint de direction et directeur de restauration. Donc, le temps a passé, hein, j'ai 35 ans de métier. Mais c'est un métier que malgré tout, en tant que directeur de restauration, qui est à peu près la même chose, donc je fais depuis une trentaine d'années. J'ai 35 ans d'expérience et puis voilà.
Mm-hmm. Avec des interruptions, puis c'est intéressant parce que vous n'êtes pas que maître d'hôtel aussi.
Voilà, c'est alors des interruptions, une interruption principale en fait, qui est l'achat de mon établissement. Où je suis passé de l'autre côté en cuisine, qui est mon métier premier en fait, hein, qui est ma passion. Et donc j'ai oscillé dans mon établissement entre la cuisine et la salle, mais quand même beaucoup plus en cuisine.
Ah, vous étiez d'abord cuisinier. Vous avez commencé par vous former à la base,
je me suis spécialisé en cuisine. Oui.
Ce qui est intéressant, parce qu'en fait, j'imagine que c'est assez rare les maîtres d'hôtel qui ont les deux casquettes, les deux toques.
Alors, effectivement, c'est relativement rare. Souvent, on est pro cuisine ou pro salle. Et quand moi j'ai commencé, il était hors de question que je mette un pied en salle au tout départ. C'était cette image et cette espèce de fantasme qu'on a. Et
on va y donc, revenir, voilà. Ouais, tout à fait, c'est intéressant. Enfin, c'est intéressant, et puis c'est un peu dommage en même temps cette dichotomie, parce que c'est un tout.
Exactement, c'est ça un peu le problème qu'on peut avoir, alors de moins en moins souvent, heureusement, mais qu'il y a eu pendant très longtemps, en fait, cette espèce de guerre entre la cuisine et la salle, et finalement un besoin absolu de l'un et de l'autre.
J'avoue que maître d'hôtel, c'est un métier que je ne connais vraiment pas. Enfin, j'ai une vague idée, en fait. Donc, on va le découvrir plus avant, ce métier. Qu'est-ce que vous diriez déjà synthétiquement pour le résumer ?
Un maître d'hôtel, c'est quelqu'un qui dirige, en fait, la salle de restaurant, comme le chef de cuisine dirige la cuisine. Voilà. Donc, il a sous ses ordres... Alors, on parle de brigade quand on parle de maître d'hôtel, normalement, comme en cuisine. La brigade en cuisine étant originaire de l'armée, hein, de sous Napoléon. Donc, le maître d'hôtel a des... alors, premier maître d'hôtel de carré, chef de rang, demi-chef de rang, commis, etc. Donc, on a vraiment une vraie brigade. Et là, en fin de compte, le terme de maître d'hôtel est justifié. Maintenant, on l'utilise pour des responsables de salle, qu'ils aient un, deux ou trois personnes sous leurs ordres. Mais il n'y a plus vraiment cette notion de brigade en salle.
Oui, peut-être heureusement, on va dire.
Oui. Alors, ça dépend. C'est une histoire de volume aussi, hein, ou de gastronomie. Dans les restaurants gastronomiques, vous gardez encore cet espace, en fin de compte, où vous avez un maître d'hôtel qui va, en fin de compte, qui distille et qui est là pour s'assurer de la qualité du service, mais également des plats qui sortent.
Ce qu'on comprend, c'est que finalement, malgré le nom maître d'hôtel, c'est complètement lié à la table, en fait, ce métier.
Absolument. C'est absolument pas lié à la partie hôtellerie, ça n'a même absolument aucun lien. Alors, à part dans les hôtels, restaurants, etc., mais c'est vraiment un terme qui est spécifique à la restauration.
Depuis quand ça existe, ce métier ?
Alors, je me suis renseigné, ça existe depuis les temps féodaux où le maître d'hôtel était le seigneur qui s'occupait de la partie donc de cuisine, de nourriture du roi et des serviteurs qui l'avaient sous ses ordres.
Une sorte d'intendant, mais spécialisé dans la nourriture.
Exclusivement, en fait. Et un seigneur. Hein,
et un seigneur, donc c'était ouais, titre de noblesse. Et c'est un peu l'image qu'on a aussi du maître d'hôtel aujourd'hui, malgré tout. C'est que tous les restaurants, évidemment, n'ont pas de maître d'hôtel. Enfin, qu'est-ce qu'il faut pour s'offrir un maître d'hôtel ?
Alors, qu'est-ce qu'il faut pour s'offrir un maître d'hôtel? C'est une question intéressante. Alors, plein de gens donnent des termes de maître d'hôtel qui peuvent être injustifiés. Pour s'offrir un maître d'hôtel, comme je le disais, il faudrait presque une brigade. Ça veut dire qu'en fin de compte, un maître d'hôtel n'a de signification que s'il a des gens sous ses ordres qu'il peut diriger et donc ce qui lui permet, lui, de superviser, d'accueillir et de superviser le service. Voilà. Après, s'il y a un ou deux employés, on est sur un chef de salle, un responsable de salle, mais pas maître d'hôtel.
Et tous les termes que vous employez, chef de salle, responsable de salle, maître d'hôtel, correspondent légalement à des fiches de poste et des fiches de paye, quand même, pas ?
Oui, bien sûr. Quand on est responsable de salle, quand on est chef de salle ou quand on est maître d'hôtel, on bénéficie d'un statut. Alors, pas de cadre, hein, ça peut arriver, mais un statut qui fait qu'on a quand même une meilleure rémunération, évidemment, qu'un chef de rang ou un serveur, simplement.
Et comment est-ce qu'on se forme ? Enfin, est-ce qu'il y a une formation spécifique à maître d'hôtel ? Comment ça se passe ?
Alors, à maître d'hôtel spécifiquement, il peut y avoir des écoles privées qui vous forment, mais dans l'absolu, c'est une formation qu'on a à l'école. Soit par apprentissage, soit par voie scolaire classique. Hein. Je suis issu du lycée hôtelier de Dinard où on pouvait choisir d'être serveur ou cuisinier. Et donc après, c'est l'expérience qui fait le maître d'hôtel. Au final, c'est-à-dire quand quelqu'un qui sort de l'école hôtelière, en règle générale, n'a évidemment pas d'expérience et ne commence à être un professionnel, à mon sens, ceci dit, qu'à partir de 5 ans d'expérience. Et là, il peut commencer à justifier de postes à responsabilité, mais juste commencer. C'est-à-dire que je pense, encore une fois, ça ne concerne que moi, mais je pense qu'un maître d'hôtel doit avoir 10 ans d'expérience aguerrie pour pouvoir vraiment superviser une salle, comprendre le lien entre la cuisine et la salle, gérer son personnel, gérer également la clientèle, parce qu'il y a une gestion selon les profils et le type de clientèle qu'on a.
Et c'est là que je me rends compte qu'il faut que vous nous détailliez les tâches du maître d'hôtel et ses missions.
Alors, les tâches du maître d'hôtel sont simples. Elles ne sont pas foncièrement simples, mais elles consistent d'abord à prendre les réservations. Alors, ça dépend si on a un hôtel-restaurant ou un restaurant. Parlons d'un restaurant uniquement. Oui. Parce que si on a un hôtel-restaurant, il y a une réception, donc avec des réceptionnistes qui vont prendre les réservations. Donc, dans un restaurant, c'est lui, normalement, qui doit prendre les réservations. Donc, répartir l'ensemble des réservations selon les horaires sur les différentes tables. Donc, s'assurer que chacun a une table, qu'on ne fasse pas de surbooking. Comment dire en anglais. Et ensuite, il va être en lien avec la cuisine, donc connaître les plats précisément, et puis ensuite donc transmettre les informations à son personnel de salle, et ensuite accueillir la clientèle, l'installer à table. Là après, normalement, vous avez des maîtres d'hôtel de carré ou des chefs de rang qui prennent la suite pour prendre les commandes, mais lui, à force de recommandation, c'est-à-dire qu'on peut appeler le maître d'hôtel pour une question ou une recommandation sur un plat ou un autre. Normalement, il n'a aucun impact sur le vin, puisque théoriquement, si on est dans une brigade, on a un sommelier, ce qui est de moins en moins le cas. Donc, le maître d'hôtel doit de plus en plus avoir des connaissances en vin, évidemment. Mais dans l'absolu, donc, c'est recevoir, donc, prendre les réservations, gérer et organiser le service en salle, recevoir la clientèle, l'installer et s'assurer du bon déroulement, et donc, évidemment, donc, faire l'encaissement à la fin des repas, donc du service.
Donc c'est surtout de la gestion des ressources humaines, des humains en général, parce qu'il y a les clients aussi, c'est ça ? C'est surtout un métier relationnel, en fait, c'est ça ?
Voilà, dans l'absolu. Après, dans la réalité, on n'en est plus là.
Ah oui.
Un maître d'hôtel, finalement, à peu près tous les postes. C'est-à-dire qu'en fin de compte, et je suis le premier, moi, à considérer qu'il faut faire preuve d'exemplarité. Donc, l'idée est de travailler et d'être dans le service, d'accueillir, mais de prendre les commandes, de recommander, etc. Et de faire sa tâche de façon à ce que les autres puissent en prendre exemple.
Est-ce que le maître d'hôtel a un rôle à jouer sur le look de la table, le choix des serviettes, même des assiettes?
Alors les assiettes, moins, parce que c'est souvent le chef de cuisine qui va choisir des assiettes en fonction des plats qu'il choisit. Ceci dit, même une carte de restaurant dans un établissement qui qui a une bonne conscience, rassemblera l'ensemble du personnel pour créer une nouvelle carte.
Oui.
Donc vous avez le maître d'hôtel, mais vous avez le chef de cuisine, mais vous avez aussi les commis, chefs de partie, chefs de rang, etc. Et tout le monde peut faire proposition. Après, on fait une sélection, etc. Mais bien souvent, dans plein d'établissements, c'est le chef de cuisine qui fait une sélection, éventuellement avec le maître d'hôtel.
Même pour la décoration, enfin l'aspect...
C'est pour la partie cuisine choix. Après, pour la décoration, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fin de compte, vous avez un maître d'hôtel qui est employé. Il est employé par un patron, en général, ou par un groupe. Donc, il a soit un directeur de restaurant, soit un patron sous ses ordres. Donc, si on lui laisse libre choix de choisir ses serviettes, de choisir la décoration, tout va bien. Il n'y a pas de règle, en fait.
Ça dépend vraiment du lieu
où on travaille.
Et vous, par exemple, vous avez été maître d'hôtel à Nison, c'est ça, je crois.
Alors, pour le coup, dans mon établissement, j'ai un peu écarté dans la fibre de l'alliance, donc des tables libres et vivantes. J'ai un peu écarté cette notion de maître d'hôtel, déjà parce que y avait deux serveurs en fait, pas une équipe. On en avait 35 ouverts et j'essayais de sortir d'une image gastronomique également avec une cuisine.
Parce que c'est quand même maître d'hôtel, c'est attaché quand même à un certain standing, c'est ça.
Exactement. C'est-à-dire que quand vous travaillez dans une brasserie, normalement, vous ne trouvez pas de maître d'hôtel, même si certains maintenant parlent de maître d'hôtel en brasserie, où il y a bien souvent plus de personnel que dans un restaurant gastronomique.
Ah oui.
Mais donc à Nison, j'ai supervisé ma salle pendant très peu de temps. Sur les 7 ans que j'ai exploité mon établissement, j'ai dû passer un an et demi en salle et le reste en cuisine. C'était une bonne chose au départ. Je voulais tout de suite passer en cuisine et je n'ai pas trouvé de personne suffisamment compétente, en tout cas à mon sens, pour prendre la partie salle. Et j'avais un cuisinier qui m'accompagnait de l'établissement où je travaillais.
Mais c'était vous le patron?
C'est ça, exactement. Donc ça m'a permis de faire ce que je sais faire, c'est-à-dire commercialiser, vendre, accueillir, recevoir et créer déjà une réputation sur l'accueil et sur le savoir-faire de la salle.
Mm-hmm. Et là, maintenant, vous êtes au manoir de Kerhuel, maître d'hôtel toujours.
Absolument.
Et là, vous n'êtes pas le patron, donc j'imagine que c'est peut-être un peu différent. Comment est-ce que vous arrivez à travailler avec l'équipe en cuisine notamment?
Alors, il y a une excellente... Là, le manoir de Kerhuel est pour moi une grande surprise, une très bonne surprise d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a une excellente relation entre la cuisine et la salle. Il y a une jeune équipe motivée qui fait un travail, un joli travail gastronomique et qui est toujours soucieuse de savoir et de s'assurer que ça se passe bien en salle. Donc, il y a une vraie communication, il y a une entraide qui se fait, qui est assez surprenante et dont je suis très heureux d'ailleurs.
Et le fait que vous soyez cuisinier de métier est sans doute important aussi pour votre légitimité. Je ne sais pas comment on peut dire ça, mais...
En tant que maître d'hôtel. Alors, c'est vrai que le maître d'hôtel tous les maîtres d'hôtel n'ont pas d'expérience en cuisine, mais par contre, ils doivent avoir des connaissances. C'est-à-dire que pour vendre un produit qui sort de la cuisine, pour vendre un plat qui sort de la cuisine, il faut bien connaître les éléments qui constituent ce plat et les termes techniques. Et les termes techniques qu'on va utiliser comme suer, les différents termes qu'on pourrait utiliser en cuisine ne sont pas évidemment obtus pour la clientèle. Donc il faut savoir traduire ces termes-là de façon à ce que la clientèle comprenne ce qu'on dit. Donc il y a une vraie nécessité de connaissances. Moi j'ai la chance effectivement d'avoir les connaissances de cuisine qui me permettent d'avoir un vrai savoir sur ces termes techniques.
Oui, parce que quand vous dites vendre les produits en salle, en fait c'est faire de la pédagogie. Enfin j'imagine c'est ça, non?
Alors c'est pas que de la pédagogie parce que on peut par la façon dont on va parler d'un plat. À des clients, on va leur donner envie de le prendre. C'est-à-dire que c'est une histoire qu'on raconte, toujours.
C'est ça.
Et cette histoire, plus on connaît nos produits, plus on connaît la façon dont ils sont faits, et mieux on peut la raconter. Et donc, on crée l'envie, on crée le désir. Et donc, si on veut, par exemple, vendre quelque chose plus qu'autre chose, eh ben, il suffit d'appuyer, en fin de compte, de parler de ce plat avec un peu plus d'intensité, avec un peu plus de poésie, et le tour est joué.
Et ça suppose que vous les ayez tous goûtés aussi.
Alors, c'est important, bien sûr. Oui. Mais c'est comme un sommelier les vins. On ne peut pas vendre un vin sans le connaître et sans connaître le produit qui est dans la bouteille. Et au-delà de ça, sans connaître le viticulteur, par exemple, ou les voilà.
C'est une question que j'avais posée. Le maître d'hôtel, est-ce qu'il doit aller jusqu'à rencontrer les producteurs, enfin les fournisseurs du restaurant
Alors, à mon sens, oui. Un maître d'hôtel doit avoir une vraie connaissance des gens qui travaillent, avec qui il travaille, donc avec qui l'établissement travaille. Et donc, il est important qu'ils connaissent les producteurs, les fournisseurs, etc. Parce que c'est en fait, le contact qu'on va avoir avec un producteur, bon, vous avez reçu ici Solène Larzoul, vous avez reçu le Meunier de Saint-Eil, etc. C'est des gens que je connais bien, avec qui j'ai travaillé. Quand je parle d'un chèvre ou quand je parle du pain que je faisais, etc., je raconte, j'ai une histoire en tête. J'ai une histoire parce que je connais la personne. Donc, il y a vraiment quelque chose de riche qui s'insère dans ce que je vais raconter.
Même si ce n'est pas vous qui les avez choisis, c'est plutôt le cuisinier qui
choisit les fournisseurs. Oui, là, dans l'absolu. Oui, absolument. Mmh. Mais ça ne change rien, en fait. Mm-hmm. L'important, c'est de... Par exemple, on va parler au manoir de Kerhuel, on travaille avec les fromages de Stenmark qui est dans le Nord Finistère, qui est affineur.
Oui.
Alors moi, je le connaissais forcément.
C'est d'ailleurs le seul affineur du Finistère.
C'est le seul... Non, alors il y a plein d'affineurs, mais pas comme lui. Voilà, c'est ça. Ouais. Il n'y a pas lui.
Il est gradé.
Lui, il est impressionnant, j'ai envie de dire. Hein. Et donc, bon, c'est une belle surprise aussi. Mais là, en fin de compte, moi, je ne pouvais pas facilement en parler parce que de toute façon, je connaissais son travail, sa façon de travailler, l'implication qu'il avait avec les éleveurs.
Et voilà, c'est donc ça. Mm-hmm. Et les gens, quand ils arrivent dans ces restaurants, dans l'ensemble, ils ont idée de ce qu'ils veulent ou justement pas du tout? Enfin, moi,
Alors, pour l'exemple du manoir de Kerhuel ou de mon établissement, les gens ont une idée précise de ce qu'ils viennent chercher. C'est-à-dire qu'ils sont là pour une prestation, on leur vend une prestation. Beaucoup ont encore cette image de gastronomie, hein, même dans mon établissement, au final, où j'ai essayé de me battre contre cette image, mais voilà, sans vraiment de succès, sauf sur la fin. mais c'est important. Donc, ils viennent avec cette image-là, ils attendent une prestation, et il faut pas les décevoir. En même temps, c'est des choix, c'est-à-dire qu'on fait des choix dans un établissement, et il est important que les gens comprennent que ces choix-là sont les choix de l'établissement. Donc, quand ils viennent, c'est ce qu'on propose. S'ils veulent autre chose, il faut aller voir dans un autre établissement. Quoi.
Mais ils veulent une expérience. Mais en termes de choix des mets, enfin des plats, c'est vraiment à vous d'expliquer, là. C'est ça. Hein.
Bien sûr, bien sûr. Ouais. Bien sûr.
Ils ne viennent pas forcément, ils ne disent pas « oui, je veux tel plat ». Enfin, ils ne connaissent pas, en fait, si.
Alors,
il y a
si,
des habitués.
Alors, déjà, il y a des grands habitués. Hein. Ouais. Il y en a qui viennent, alors que ce soit dans mon établissement ou l'hôtel du Roi Radon, où j'ai travaillé pendant 18 ans, avant. Il y a, par exemple, on avait au Roi Radon une aumônière de Saint-Jacques. Et quand je suis arrivé en 96 dans cet établissement-là, on faisait une aumônière de Saint-Jacques. Donc, c'était très sympa.
Précurseur.
Très bon, hein. Très classique, ceci. Ouais. mais les gens, quand on l'a retiré de la carte, nous la réclamaient. C'est-à-dire que les habitués demandaient, ou les homards, ou autre chose, hein, des fruits de mer, etc. Donc, oui, les gens arrivaient avec une idée. Alors, il y a ceux qui ne connaissent pas, mais les habitués ont des idées, des habitudes. Et des fois, c'est un peu compliqué de les sortir de leurs habitudes. Ou alors... C'est là que vient la force du maître d'hôtel, c'est de leur dire oui, on a changé, mais.
Eh, c'est ça.
Voilà ce qu'on vous propose.
Eh oui, donc c'est intéressant quand un nouveau plat arrive, en fait, pour
bien
vous.
Sûr, enfin,
pour le maître d'hôtel, c'est le renouvellement de la carte.
Alors, le renouvellement de la carte dans un établissement qui se veut un bon établissement, c'est au moins 4 fois par an. Donc,
oui.
À chaque saison. Ça peut être plus souvent, même. Donc, il y a toujours un travail d'apprentissage, hein, de recherche aussi. Hein. C'est-à-dire qu'on va nous parler de nouveaux champignons, on va nous parler de nouveaux produits, surtout en ce moment, avec la mondialisation, mm-hmm. On a plein de choses qui arrivent. Même sur des produits de semences paysannes locales, hein, on peut trouver des choses que personne ne connaît. Et donc, c'est de se renseigner sur le produit, savoir d'où il vient, etc. Et puis ensuite, comment est-ce qu'il est apprêté et quel goût il a. C'est-à-dire qu'il va falloir transmettre au client ce qu'il va découvrir comme expérience gustative.
Oui, parce qu'il faut dire quand même qu'un restaurant de bonne tenue, comme vous dites, c'est quand même un restaurant où on mange des choses qu'on ne mange pas ailleurs. Enfin, oui, il y a du goût, il y a vraiment une expérience gustative.
Oui, alors il y a une expérience gustative, mais ce n'est pas forcément des choses qu'on ne mange pas ailleurs, en fait. C'est ça qui est... Enfin,
oui.
Alors pour l'expérience de mon établissement, j'adorais travailler entre des choses complètement alors inventées, ou des choses asiatiques, africaines, etc., du monde entier, et en même temps des plats classiques comme les blanquettes de veau ou de volaille, le bœuf bourguignon, etc., pas revisité, mais refait traditionnellement et vraiment avec des bons produits. Et tout d'un coup, les gens goûtent et disent Ah, mais c'est incroyable.
Ah.
Mais pas parce que le cuisinier est meilleur ou pas, simplement parce que les produits, là on reparle de l'Alliance, on parle de l'USPG, tout le travail qu'on fait, hein, c'est que les produits qu'on utilise sont des produits de qualité et des produits qui viennent de producteurs locaux.
Oui, oui, tout à fait. Et alors, on voit se dessiner en creux dans tout ce que vous dites l'évolution de ce métier de maître d'hôtel. Qu'est-ce que vous diriez qu'est-ce qui a le plus changé, en fait?
Alors, le service en salle, pas spécialement maître d'hôtel, hein, mais serveur, chef de rang, etc., a eu un grand moment de faiblesse, entre guillemets, parce qu'il y a eu une époque de savoir. C'est-à-dire que pour être en salle, il fallait savoir, il fallait connaître. Il y avait beaucoup de découpage, il y avait beaucoup de flambage, il y avait beaucoup de préparations diverses et variées qui ont disparu au fur et à mesure parce que c'était chronophage. Voilà, oui. Un terme un grossier.
Ça prend du temps.
Voilà, c'est ça, ça prend du temps. Ouais.
Et c'était très technique.
Et donc, c'était très technique.
Des métiers très qualifiés, en fait.
Il fallait ouais. savoir, il fallait bien connaître les poissons, il fallait bien connaître les viandes, hein, découper une volaille, découper une côte de bœuf, etc. Et tout ça a disparu au fur et à mesure. Et donc, les patrons de restaurants ont commencé à embaucher des gens qui n'avaient pas de formation, parce qu'ils les payaient beaucoup moins cher, évidemment, et que n'importe qui pouvait servir une assiette.
Oui, à peu près, après sans la renverser, c'est pas si évident.
Oui, oui, non, mais voilà, c'était quand même à la portée de beaucoup de gens.
Vrai, vrai.
Ce qui a déprofessionnalisé le métier, ce qui a généré aussi une forme de méconnaissance ou de désintérêt pour le métier. Et c'est vrai que moi, dans les jeunes que j'ai formés à l'époque où j'étais, il y a une dizaine d'années, jusqu'à il y a une dizaine d'années en tout cas, j'appuyais bien sur le fait que maintenant, en fin de compte, pour faire la différence avec quelqu'un qui n'était pas du métier, c'était les connaissances, en fait.
C'est ça.
Les connaissances des produits, les connaissances des vins, les connaissances des alcools, les connaissances, le savoir-faire et le savoir-être.
La culture générale.
Ouais, la culture générale.
Et puis le sens de la communication,
exactement.
Comme vous dites, savoir raconter une histoire, enfin, faire
absolument.
Un peu rêver, quoi.
Mmh.
Et donc ça, vous l'avez enseigné spécifiquement aux jeunes que
ah oui,
formiez.
Bien sûr. Ouais, c'était, ouais. C'est ce qui fait la différence. Après, sinon, il n'y a pas beaucoup de différence au final, parce que quelqu'un d'intelligent qui n'a jamais fait ce métier est capable de comprendre même ce qui se passe en cuisine, comprendre les plats, et puis s'il a un peu de bagou, il est capable de vendre.
Ouais.
Après, la différence va être sur le vrai savoir qu'il peut y avoir et donc les détails qu'on va pouvoir distiller, en fait.
Et est-ce que ça va être à nouveau reconnu, ces savoir-faire-là? Qu'est-ce que vous en pensez?
Non, je crois qu'on arrive sur, alors très honnêtement, mais sur l'ensemble de la restauration, là, je pense qu'on arrive à une période, en fin de compte, où tout est en train de changer. Et la restauration, il y a une vraie remise en question. On a un gros problème de masse salariale en hôtellerie et restauration, que ce soit en cuisine ou en salle, hein, qui fait qu'il y a un vrai besoin de changement. Mais c'est...
Quand vous dites masse salariée, ça coûte trop cher, c'est ça?
C'est pas que ça coûte trop cher, c'est que plus personne ne veut le faire.
Ah oui, le recrutement.
Toujours au recrutement, bien sûr.
Ouais, ouais. Ouais. Et donc, il faut rendre à nouveau ces métiers de service intéressants, riches, en fait. C'est ça que vous voulez dire, quoi.
Alors, je pense qu'il faut réinventer la restauration.
Comment? Alors, qu'est-ce que vous auriez comme idée?
Alors, plus on parle de cantines, par exemple, populaires, d'endroits où on fait du bien manger, mais pas forcément avec des codes de restauration comme on les connaît. Alors, ça va générer, évidemment, une reformation de la clientèle. Hein, reprendre des habitudes un peu différentes. Après, il y a plein d'autres essais qui sont faits. C'est compliqué de le dire là. On est en pleine recherche justement de la façon dont ça peut se faire. Un vrai lien entre la cuisine et la salle, finalement. Est-ce que les cuisiniers et les serveurs ne devraient pas être cuisiniers et serveurs, par exemple?
Ça serait une idée. Ouais.
Oui,
parce qu'en fait, vous me parliez hors antenne d'une guéguerre entre les deux univers, c'est ça?
Oui, il y a une vieille guerre comme ça. Bon, comme je le disais, au Manoir de Querelle, elle n'est pas du tout l'actualité. Et c'est très bien.
Heureusement.
Mais heureusement, oui. Mais il y a une vieille histoire comme ça de guerre entre les cuisiniers et les serveurs, les deux lieux donc, où il y a des vacheries qui sont faites. D'ailleurs, on surnomme les serveurs Lufia. Lufia était l'un des premiers serveurs à avoir été tué par un cuisinier.
Ambiance.
Un coup de casserole, voilà, je crois, ou un couteau, je ne sais plus. Voilà. Non, mais c'est pour... et c'est vrai que c'est dommageable pour l'établissement, c'est dommageable pour tout, en fait. Hein.
Mais alors, dans ce que vous me dites, est-ce que ça veut dire que le métier de maître d'hôtel, finalement, est voué à disparaître? Enfin, tel qu'on l'a connu, en tout cas.
Tel qu'on l'a connu, oui. Maintenant, on aura toujours besoin de gens qui sauront et qui transmettront. Donc, il est voué, peut-être pas à disparaître, mais à se transformer de façon importante. Et ça veut dire que ce sera plus juste de l'image. comme on peut voir maintenant hein, encore.
Mais très bien habillé, voilà, qui se tient très droit.
Voilà, exactement. Mais quelqu'un qui a de la connaissance, qui a le savoir et qui est capable de faire la transition entre ce qui va sortir de la cuisine et ce qui va arriver en salle. Et puis, toujours cette notion qui est très importante quand même, c'est-à-dire qu'en fin de compte, le maître d'hôtel ou le responsable de salle, ou le serveur s'il n'y a pas de responsable de salle, est le dernier point entre la cuisine et la salle, donc le dernier qui peut vérifier qu'une assiette est complète, par exemple, qu'on n'a pas oublié une sauce, qu'on n'a pas oublié quelque chose, qu'elle est belle, qu'elle est... Voilà, la dernière sécurité, le dernier... avant que ça arrive à table.
Ouais, qu'il n'y a pas une mouche au milieu.
Par exemple, voilà.
Ouais, c'est ça, la qualité, l'esthétique. Enfin, c'est à la fois un compteur et puis une sorte de gardien du temple, si on veut. Enfin, peut-être que
c'est ça,
le terme est mal choisi, quoi.
Et c'est important. Il y a autre chose qui est important dans le métier de maître d'hôtel et de serveur. Hein, là, c'est pour... Dans le métier de salle, c'est cette notion où quand les gens viennent dans un établissement, ils viennent pour passer un moment, mais un bon moment. C'est-à-dire c'est un métier de plaisir, hein. C'est pas un métier indispensable.
Ben oui.
Et donc, il est important d'avoir la compréhension donc de la façon dont on va faire passer, on va créer une bulle en fait au moment où les gens rentrent dans l'établissement, où ils s'installent, où il faut qu'il y ait un bien-être qui soit installé tout de suite. Il peut y avoir des attentes, il peut y avoir des choses, mais même dans ces attentes, même dans ces choses-là, il faut que les gens, quand ils sortent, se disent « Waouh, c'était super ». On est prêt à retourner travailler, on est prêt à aller se balader, mais voilà, il faut que ce soit des... Et ça, c'est un vrai travail aussi, hein, de trouver cette finesse, en fin de compte, parce que c'est psychologique, là. C'est-à-dire que chaque personne est différente, et donc il faut comprendre tout de suite les gens quand ils rentrent dans l'établissement.
Oui.
Donc ce qu'ils demandent, hein, il y en a qui ont besoin de parler, d'autres qui ont besoin de rire, d'autres qui ont besoin de rien.
Ouais, il ne faut pas les approcher.
Exactement, pas trop. Non, mais c'est... Voilà.
C'est ça, tout
et,
à fait.
Et ouais. Ces gens dont vous parlez, donc, qu'il ne faut pas approcher, en fait, quand on ne les approche pas, quand c'est très silencieux, quand c'est très bien fait, mécanique, etc., ils sont très satisfaits à la fin.
C'est ça. Ouais, ouais. Oh, eh bien, un métier riche, en tout cas. Merci de nous l'avoir présenté, Samuel Ramouet-Jiquel. On retrouvera l'USPG, l'Université des sciences et pratiques gastronomiques, à l'antenne de nouveau. Ce sera le 12 juin.